Chers camarades, je tiens tout d'abord à saluer les travailleurs de Technicolor, ex-Thomson, venus à Paris hier des sites d'Angers, d'ici les Moulineaux et de Rennes, protester contre un énième plan de licenciement. Ils se sont retrouvés à près de 400 devant le siège de l'entreprise, transformé pour l'occasion en bunker par la direction. Mais les rangées de gardes mobiles n'ont pu empêcher ces travailleurs déterminés de pénétrer dans le bâtiment pour dire leur colère face au licenciement. Technicolor veut économiser plusieurs millions d'euros sur leur dos pour servir la soupe aux banques et prétend maintenant leur imposer 12 jours de travail gratuit pour soi-disant éviter les licenciements. Les travailleurs de Technicolor ont raison de ne pas se laisser berner. Aucune concession faite à leur patron ne les protégera d'un licenciement. Ils ont raison de se battre, car c'est la seule voie qui peut leur garantir de ne pas être mis sur le carreau. C'est la seule voie qui prépare l'avenir. Alors il paraît qu'il ferait bon vivre en Bretagne, et à Rennes particulièrement. Avec son statut de capitale régionale, ses industries automobiles et de haute technologie, son secteur universitaire important, son métro. Les élus locaux se servent de cette image comme d'un fonds de commerce. Mais avec la crise et les politiques de dégradation des services publics, la réalité est tout autre pour les ingénieurs et les techniciens de Technicolor, mais aussi pour l'ensemble des classes populaires. Pourtant, tels des funambules, les édiles locaux et les patrons continuent leur cinéma comme si de rien n'était. Sarkozy en personne est venu en tournée à Fougères et Vitré avec deux députés centristes du CRU, Méhignori et Benoît. Est-elle un bon seigneur flanqué de ses deux vassaux, il a rendu visite à ses sujets, mangé humblement dans un restaurant routier et débiter son sermon dans une usine. Tout ça pour faire oublier qu'il est le serviteur des riches et des patrons. Quel destin! Ça commence au Fouquet et ça finit au resto ouvrier. Depuis le début de cette campagne électorale, on assiste à toute une démagogie du produire français de la part de bien des candidats à l'élection présidentielle. La presse et les patrons, les notables de la région, s'en font l'écho et deviennent des chantres du produire en Bretagne. Et voilà que le coq gaulois se fait doubler par la blanche Hermine. Le groupe quimpérois Armorlux a été à l'honneur d'ailleurs. Verrou, l'UMP et aussi le PS l'ont choisi pour la convection, 100% française, de leur t-shirt de campagne. Car Armorlux se targue de privilégier le produire local. C'est vraiment du dernier chic de s'habiller en coton breton, et pour un peu, ça nous changerait le climat. Quant à l'entreprise Carl Zeiss Vision, installée à Fougères, elle avait déjà le label 100% fabriqué en France. Eh bien, elle va pouvoir utiliser désormais le logo de la marque du territoire Bretagne. Ce groupe international, vieux de 160 ans, implanté dans plus de 30 pays et qui compte plus de 13 000 salariés, peut bien l'ajouter à sa collection. Son brevet d'attachement à la Bretagne ne l'a pas empêché ces deux dernières années de déplacer une partie de sa production de verres de lunettes vers d'autres horizons et de supprimer au passage plus de 100 emplois à Fougères du chômage made in Braise, du coup. Lorsque le mode est au repli local et au terroir, cette certification bretonne n'a d'autre but que de gruger le gogo. Même les fameuses et authentiques galettes bretonnes sont faites d'une farine de sarrasin qui, pour la majeure partie, vient de l'autre bout du monde. Et il en va de même pour l'agriculture et la pêche, soi-disant bretonne. Ces productions y sont dominées par quelques puissants groupes de l'agroalimentaire, comme Doux, Bigard ou Lactalis, ainsi que par la grande distribution des Leclerc et Intermarché, qui contrôlent les grands abattoirs Kermené de Collinet ou SVA de Vitré. Ces sociétés peuvent avoir leur siège en Bretagne. Elles organisent la production et la vente de l'alimentation à partir de produits venus du monde entier et pour le monde entier. Et si ces grands groupes sont réputés, c'est surtout à cause des conditions d'exploitation parmi les plus dures qu'ils imposent à leurs travailleurs. Au point que dans la région de Quimperlé, quand un employé vient à se plaindre à son patron, il n'est pas rare qu'on lui réponde « Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller travailler chez Bigard. » En effet, chez Bigard, comme aux abattoirs, la Coperle, de Lamballe et de Montfort-sur-Meux, les ouvriers sont usés déjà à 30 ans, avec des tendinites aux bras, aux poignets, aux mains, tellement les cadences sont insupportables. Comme des esclaves, ils sont enchaînés dans le froid des heures entières, sans même pouvoir aller aux toilettes. Et dans ces entreprises, bien de chez nous, la main-d'œuvre est internationale. Les patrons utilisent ce qu'ils appellent le portage, c'est-à-dire le recrutement de travailleurs venus de Pologne ou du Mali par l'intermédiaire d'officines spécialisées, souvent basées en Irlande. La précarité, les bas salaires y sont légion. Et ce sont ces mêmes patrons de la Coperle qui n'hésitent pas à pointer du doigt le dumping social déloyal pratiqué selon eux par les concurrents allemands. Ils vont jusqu'à brandir la menace d'une délocalisation de la production vers l'Allemagne si les ouvriers de la Coperle n'acceptent pas de produire plus et plus vite. Quant au groupe laitier Lactalis, il prétend, lui, fixer les prix et les quantités de lait qu'il achète aux producteurs. Ces derniers ont d'ailleurs multiplié les manifestations contre le véritable racket que ce groupe cherche à leur imposer. Voilà quelques aspects qu'il convient de rappeler de cette économie bretonne si fière de son authenticité. Et le plus drôle serait que Lactalis, gros producteur d'emmental, réputé d'origine suisse, finisse par nous certifier l'origine bretonne de ce fromage. On le fait bien pour l'optique allemande, pourquoi pas pour le fromage suisse. Alors oui, tout cinéma sur le produit national ou régional a sans doute la prétention de nous faire aimer les entreprises locales, et bien ce n'est pas gagné. Parisot peut qualifier la Bretagne d'une terre de sacrés entrepreneurs. Moi, je dirais plutôt de sacrés exploiteurs. Car pour les salaires, l'emploi et les conditions de travail, ils sont bien comme tous les autres. Regardez le groupe Peugeot-Citroën, le plus gros employeur privé de la région. Dans son usine de Rennes-la-Janée, PSA a fait passer les effectifs en quelques années de 10 000 à 5 500 aujourd'hui, soit 6 000 avec les intérimaires et les CDD. Et combien de travailleurs sous-traitants de l'automobile ont été licenciés? Entre ceux de Visteon, ceux de la barre Thomas, ce sont des centaines de familles qui ont été mises sur le carreau. Et que dire des ouvriers de Florestière-Redon, dont moins de la moitié a retrouvé du travail après la fermeture de l'usine en juillet dernier? Et pendant ce temps, le groupe Faurecia annonçait pour la même année un bénéfice en hausse de 82%. À la Janée, les responsables entretiennent l'incertitude permanente quant à l'avenir de l'usine. Et avec le dernier plan de suppression de 226 postes, la pression pour pousser les travailleurs au départ, soi-disant volontaires, est incessante. PSA en profite pour diminuer les salaires en imposant du chômage partiel. Et si le nombre de voitures produites par jour a diminué, il a bien moins diminué que les effectifs. Et quand les chaînes tournent, elles tournent à fond. Eh bien, pas plus tard que vendredi dernier, 200 travailleurs de l'usine ont débrayé pour dire leur ras-le-bol de la menace permanente sur leurs emplois, leur ras-le-bol des cadences. Et pendant 2 heures, sous les fenêtres de la direction, les grévistes ont scandé avec force « Non, non, non licenciement !» Tant et si bien que le directeur de l'usine, qui n'a rien eu à leur dire, a dû partir sous les huées. Pour certains salariés, c'était le premier débrayage. Et ils ont apprécié la sympathie qu'il a suscitée autour d'eux dans l'usine. Déjà, ce ras-le-bol s'était exprimé l'an dernier par la vraie grève que l'usine est connue depuis qu'elle existe. Tous les travailleurs gardent en mémoire la panique de la direction et les concessions qu'elle a dû faire. Oui, ces 4 jours de grève, tous les travailleurs de la Jeannette, ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Alors que dire d'un de Lavaux, maire socialiste de Rennes, qui, loin de dénoncer la politique du groupe PSA, préfère expliquer dans la presse comment PSA a su bien adapter son outil de production aux conditions actuelles de crise. Que dire de ces élus qui préfèrent pavaner aux côtés des patrons de Technicolor lors de l'inauguration d'un nouveau bâtiment, alors même que Technicolor supprime des centaines d'emplois. Vraiment, pour justifier le versement de subventions, ces gens-là sont prêts à faire beaucoup de mousse. Ces représentants de Hollande ou de Sarkozy, on les voit à l'œuvre ici. Et quand ils disent vivre en intelligence, c'est avec les patrons qu'ils le font, pas avec les travailleurs. Ils feraient bon vivre donc à Rennes et dans sa région. Eh bien, cela concerne assez peu ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, quand ils en ont un. Ceux qui n'arrivent plus à faire face aux factures d'électricité, de gaz, au paiement de leur loyer, sont de plus en plus nombreux à venir frapper à la porte des associations. Pas étonnant qu'ils sont plus de 10 000, ceux qui, à Rennes, sont contraints à s'adresser au Resto du Cœur pour se nourrir. Oui, en réalité, c'est la misère qui se répand. Cette misère du plus grand nombre alimente la richesse de quelques-uns. Comme celle du milliardaire Pinault, patron de la FNAC et du Stade Rennais, qui peut goûter, lui, à la douceur de vivre dans sa seconde villa à 10 millions d'euros qu'il vient de s'offrir à Dinard. Eh bien qu'il en profite, car le climat finira par tourner à l'orage et espérons-le, plus vite qu'il ne le croit. De toutes les dégradations constatées à l'hôpital, dans l'enseignement, dans toutes les administrations et les entreprises de services publics. Nous subissons tous des suppressions d'emplois et des salaires bloqués. Plus aucun travailleur n'est protégé. Pas plus ceux de la SNCF où je travaille. La direction veut transférer les ateliers situés près de la gare de Rennes dans un nouveau bâtiment à Saint-Jacques-de-la-Lande. Là aussi, ce sont plus de 300 emplois qui sont menacés. La SNCF affirme aujourd'hui que le nouvel atelier serait dimensionné pour 600 salariés. Pourtant, il y a quelques années, les travailleurs étaient près de 800 aux ateliers. Actuellement, ils sont moins de 500. Et les dizaines de cheminots qui partent à la retraite chaque année ne sont pas remplacés. Quant au devenir des intérimaires et des sous-traitants, la direction de la SNCF n'en parle même pas. La SNCF parle d'embaucher demain, mais elle commence dès aujourd'hui à supprimer des emplois. Et il faudrait la croire ? Non, les cheminots n'ont aucune raison de lui faire confiance. Et pour terminer, je voudrais vous parler de la Poste. Vous avez tous entendu parler de ce jeune postier qui, le 29 février dernier, alors que se déroulait la manifestation syndicale contre l'austérité, s'est jeté dans le vide par l'une des fenêtres du bâtiment de la Poste, place de la République. Cette mort dramatique n'est certainement pas étrangère aux pressions incessantes sur le personnel menées par les dirigeants de la Poste. Mais je voudrais saluer ici la compagne de ce jeune cadre de la Poste, mère d'une petite fille, qui a eu le courage, malgré le drame qu'elle vit, de ne pas se taire. Elle a dénoncé et rendu public les agissements de la Poste envers son compagnon. Qu'elle sache que mes camarades et moi sommes totalement solidaires de son combat contre la loi du silence, cette loi du silence qui s'impose bien trop souvent dans les entreprises. Des patrons, la dureté de l'exploitation, l'extension de la misère, les raisons de se révolter contre ce système capitaliste ne manquent pas. Et ce n'est pas l'élection présidentielle qui les fera disparaître. Cette élection, par contre, sera au moins l'occasion d'exprimer cette révolte et aussi de populariser les objectifs de lutte qui nous semblent indispensables de mettre en avant pour la période à venir. Mais pour vous en parler, je cède la parole à notre candidate, Nathalie Arthaud.